Oui, comme cela a été dit, l'une des missions que notre association s'est donnée, c'est donc de parier sur le bon sens. Et plus particulièrement sur le fait que, pour porter un jugement, pour être pour ou contre ce projet, il n'y a d'autre possibilité que d'être informé. Cette information, ça a été dit et redit, nous ne l'avions pas pendant très longtemps, et nous avons été en effet les premiers à parfois informer des élus eux-mêmes totalement incrédules. On avait rencontré par exemple M. Ferroussier qui nous a dit « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» et heureusement qu'on avait quelques documents. Cette information, je vais bien sûr essayer de vous en donner quelques éléments, mais juger est une affaire d'adulte. C'est vous qui jugerez et c'est vous qui compléterez les informations que je vais essayer en partie de vous distiller. Ce que je voudrais, c'est essayer de prendre dans un premier temps à contre-pied, comme on dit au football, les fausses évidences, les idées reçues, et essayer de réfléchir avec vous à partir de quelques questions. Et ces quelques questions sont en réalité la menue monnaie d'une question plus générale, plus fondamentale, qui est: quelles sont les raisons qui légitiment une opposition à l'implantation d'éoliennes industrielles sur le CER de Gruas? La première chose que je voudrais faire, c'est vous lire le plus rapidement possible, mais le plus clairement possible quand même, trois textes, l'un rédigé par Hervé Mariton en 2004, l'autre rédigé par Bruno Durieux, maire de Grignan, en 2006, et puis en 2019, quelques extraits de la lettre d'Hervé Solignac. Bien sûr, ce sont là trois hommes politiques de notre région, des élus, l'un Hervé Solignac est député, comme vous le savez, les deux autres, je l'ai dit, sont maires, l'un de Grignan et l'autre de Crest. Et ce qui les caractérise, ce qui caractérise donc ces trois personnalités politiques, c'est qu'elles ne sont pas hostiles au développement de l'industrie, de l'éolien industriel, mais qu'elles considèrent que pour des raisons diverses, que je vais évoquer dans un instant, eh bien que donc pour ces raisons-là, l'Ardèche a largement contribué à la transition énergétique, ou ce que l'on appelle ainsi, et qu'il faut arrêter là. Première référence, donc, Hervé Mariton. Il y a eu au-dessus, ou aux alentours, pardon, de Crest, un projet sur les collines de Divageux. Ça a duré quelques années. Et puis, au bout d'un moment, M. Mariton a lu un roman qui a pour titre « La rebelle » de Benoît Duteurtre et qui dénonce ce que l'on pourrait appeler l'implantation inconsidérée d'éoliennes qui massacrent les paysages. Et cette prise de conscience a conduit Hervé Mariton à dire, donc encore une fois, dans sa lettre de l'année, dans sa lettre municipale de 2004, en tout cas, pour nous, les éoliennes de Divageux ne sont plus à l'ordre du jour. J'ai reçu, début septembre, M. Poublon, chef de projet pour la société Énergie. Il a compris notre détermination contre un projet, massacreur de paysages et absurde. Le projet n'est plus à l'ordre du jour, tant mieux. Donc, M. Mariton a eu un avantage sur Bruno Durieux, le maire de Grignan, qui lui a laissé se développer et s'installer au-dessus de Grignan, on les voit, un parc éolien. Et le 10 juillet 2006, donc Bruno Durieux écrit au préfet de l'Ardèche, qui était à ce moment-là en train de modifier le schéma éolien. Et dans cette lettre, il dit « Cher monsieur le préfet, je tiens à vous faire part de l'opposition du conseil municipal de Grignan à l'implantation de nouveaux champs d'éoliennes sur le territoire de notre pays. Je joins à cette lettre la motion adoptée par celui-ci le 20 décembre 2005. Les éoliennes qui d'ores et déjà dénaturent les sites de Montjoyer et Roussas, donc c'est quelqu'un qui y était au départ favorable, portent un tort considérable aux perspectives du pays de Grignan, aux perspectives, pardon, touristiques du pays de Grignan. Or, le tourisme est le principal espoir de développement de ce pays. J'ajoute, dit-il, que dans le pays de Grignan, où les règles d'urbanisme sont tellement sévères, sont particulièrement sévères, pour protéger à la fois le patrimoine bâti et le patrimoine naturel, il semble incompréhensible et contraire au bon sens de multiplier ces agressions visuelles. Comment comprendre qu'on impose à nos concitoyens couleurs, formes de tuiles, formats de fenêtres et mille détails pour la moindre construction et qu'on érige dans le même temps ces immenses poteaux qui défigurent le paysage, qui ruinent, pardon, le paysage. C'est un peu le point de vue d'un maire qui découvre que finalement, ce qu'il croyait être un bien se révèle être relativement, bien sûr, catastrophique. Troisième référence que je voudrais faire, très rapidement encore une fois, c'est la référence à la lettre qu'Hervé Solignac a écrite le 14 mars 2019, suite d'ailleurs à un entretien que nous avons eu avec lui, non pas cette association, mais une autre, et au cours de laquelle lettre, M. Solignac écrit à M. Vauquier, et dans cette lettre, il dit « Vous allez délibérer prochainement sur le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, et dans le cadre des objectifs fixés en matière de développement d'énergie renouvelable, vous souhaitez augmenter d'ici à 2030 l'électricité éolienne de 400% sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec 21 parcs produisant 185 mégawatts. Le département de l'Ardèche est à ce jour le plus important contributeur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, produisant à lui seul plus de 31% de l'éolien du territoire régional. » Je me permets de lire, enfin de sauter quelques lignes, et de reprendre un peu plus loin ce que dit Hervé Solignac. 94 éoliennes sont d'ores et déjà implantées en Ardèche, avec la mise en œuvre du SRADET dont je viens de donner le sens, notre département sera livré à un développement non maîtrisé, massif et anarchique de l'éolien. L'Ardèche a atteint, je crois, et c'est ça la phrase qui est importante, l'Ardèche a atteint les limites de ce qu'elle peut accepter en termes d'installation éolienne. Le nombre grandissant de projets contestés de part et d'autre du territoire illustre bien à cet égard la révolte qui gronde. Donc, il y a aujourd'hui, parmi les élus, de bords tout à fait différents. Il n'est pas besoin de vous dire que Hervé Mariton et Bruno Durieux ne sont pas du même bord que Hervé Solignac. J'aurais pu aussi citer François Jacquard, qui s'est opposé à plusieurs reprises à l'implantation d'éoliennes industrielles, en particulier sur le territoire du PNR. Je pourrais citer aussi Jacques Lang, qui, au niveau national, a écrit un certain nombre de choses tout à fait précises. En tout cas, ce qui caractérise ces trois personnalités politiques dont je viens de lire un certain nombre de passage, c'est qu'il s'agit désormais de considérer que, en Ardèche, pour ce qui concerne M. Solignac, dans la Drôme, pour ce qui concerne M. Mariton et M. Durieux, eh bien, la coupe est pleine. Alors j'entends déjà ce que certains d'entre vous peuvent penser. Ils sont hostiles aux éoliennes parce qu'ils sont pro-nucléaires. Si on est hostile aux éoliennes, ici, sur le cerf de Gruas, pour ce qui nous concerne, est-on, du fait même de cette hostilité à ce projet, pro-nucléaire ? Je ne veux pas rentrer dans le détail de ce débat. La seule chose que je veux dire, c'est qu'on peut tout à fait être favorable à la production d'électricité par les éoliennes industrielles et contre ce projet. Permettez-moi de donner à nouveau la parole à quelqu'un, un écologiste, dont les positions antinucléaires ne font pas de doute, qui, de passage en Ardèche en novembre 2005, et vous en retrouverez la trace dans le Dauphiné libéré, a déclaré, à propos de l'implantation d'éoliennes industrielles dans le département, j'ouvre les guillemets, vous avez là l'exemple, vous avez là vraiment l'exemple d'une incohérence absolue. On attire une vague d'indignation que je trouve légitime parce que l'on mite le paysage. Alors, qui est cet écologiste qui s'oppose clairement aux implantations d'éoliennes dans la, dans certains paysages et dans certains dans le département d'Ardèche de façon totalement contradictoire avec la protection du patrimoine paysager? Eh bien, c'est tout simplement Nicolas Hulot qui, donc, sur ce type de projet, aurait, mais nous ne l'avons pas sollicité, mais en bonne logique, étant donné cette déclaration de 2005, eh bien, il devrait condamner ce projet. Soyons clairs, il faut donc en finir avec cette espèce de mécanisme de pensée par lequel, dès que quelqu'un est hostile à un projet d'éolienne, il se retrouve immédiatement taxé, comme on dit aujourd'hui, stigmatisé de pro-nucléaire. Je voudrais justement prolonger un tout petit peu ces remarques en reprenant, comme je disais tout à l'heure, une idée reçue. Quelle est l'idée reçue ? L'idée reçue, c'est que les éoliennes, c'est la solution écologique verte à tous les problèmes. On peut en discuter. Ce que je veux surtout, tout de suite, c'est essayer de voir ce que voudrait dire exactement, sous l'angle de la transition écologique, l'implantation d'éoliennes industrielles sur le cerf de Gruas. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut sortir un peu de l'image que l'on a spontanément, ou plutôt l'image qui est un petit peu induite. C'est-à-dire que les éoliennes, après tout, c'est à peu près l'équivalent d'une sorte de cure-dent planté dans un apéricube. Hein. Ça ne fait pas de dégâts. Et puis à la fin, on enlève le cure-dent et on déblaye l'apéricube. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Et je poserai donc la question suivante. Les éoliennes industrielles qui sont à l'heure actuelle projetées sur le cerf de Gruas peuvent-elles être jugées conformes aux exigences de ce qu'il est convenu d'appeler la transition écologique ? Premier critère, il n'y a pas de transition écologique si il y a une atteinte à la biodiversité. Or, les éoliennes du cerf de Gruas, comme beaucoup d'autres, indéniablement tueront un nombre important d'oiseaux et menaceront l'ensemble de la vifaune et des chiroptères, particulièrement les pipistrelles. Donc, c'est une menace pour la biodiversité. Quelle est la seconde valeur que doit respecter la transition écologique ? Eh bien, c'est de ne pas augmenter l'artificialisation des sols. Or, sur le cerf de Gruas, indéniablement, les éoliennes industrielles augmenteront de façon énorme l'emprise du béton armé sur les sols naturels. Le socle d'une éolienne, qu'elle soit sur le cerf de Gruas ou ailleurs, représente 1500 tonnes de béton armé déversées par 60 camions toupies de 25 tonnes chacun, en sachant que ce béton ne sera jamais enlevé. Parce que, comme on le verra peut-être au cours d'autres réunions, aujourd'hui, la loi n'impose pas aux promoteurs, une fois fini l'exploitation du site, ne leur impose pas d'enlever la totalité. On a simplement à araser et remettre de la terre par-dessus. Ces installations sur le cerf de Gruas seraient consommatrices d'espace, seraient source d'artificialisation et des terres qui sont restées pendant des décennies à l'abri des massacres liés au progrès technique des 30 Glorieuses seront évidemment dénaturées. À l'emprise au sol, comme on l'a dit tout à l'heure, s'ajoute le renforcement des routes, l'élargissement des virages, des aires de retournement, du déboisement, autant de visages de ce que, justement, il ne faut pas prolonger. Troisièmement, la transition écologique exige que ce qui est installé soit durable. Or, ce qui caractérise les éoliennes industrielles, en particulier celles qui nous intéressent, c'est qu'elles sont loin d'être durables. Leur espérance de vie optimale est estimée à 20 ans et, d'autre part, très vite, elles vieillissent. La seule chose qui sera véritablement durable, c'est les socles en béton qui, eux, resteront aussi longtemps qu'il le faudra pour que le béton se dégrade de lui-même, qui restera donc sur le cerf de Gruas. Dernier point, une installation de production électrique sur le cerf de Gruas est-elle écologique si elle ne se soucie pas de protéger la diversité des paysages? Évidemment, ça n'a rien d'écologique dans ce cas-là, puisque ce qui caractérise les éoliennes industrielles, c'est qu'elles sont une cause unanimement reconnue d'uniformisation et de banalisation et d'appauvrissement des paysages. Ce qui va disparaître, ce qui risque de disparaître, c'est ce que l'on appelle aujourd'hui, à juste titre, un paysage emblématique, un paysage identitaire. Et donc, il faut bien voir ce que veut dire cette industrialisation des paysages épargnés par les massacres imposés par les 30 Glorieuses. Je voudrais conclure. Je voudrais conclure en posant une ou deux questions. Premièrement, avons-nous besoin d'électricité que l'on présente dans tous les documents des promoteurs comme de l'électricité verte? Je n'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire, de l'électricité verte. Mais bon, est-ce qu'on en a besoin? La question du besoin, des besoins, n'est absolument pas au centre de la réflexion des promoteurs. Je voudrais juste citer Thierry Salomon, président de Negawatt, qui, dans un article qui a été publié dans Le Monde, déclarait la chose suivante. « Habituellement, le monde de l'énergie part des ressources. Il faut inverser le raisonnement en analysant d'abord les usages et les besoins. » Si on regarde la question des usages et des besoins, comme le disent toutes les institutions du département, le PNR, le Conseil général, bref, toute une série d'institutions, l'Ardèche est, par l'addition de production électrique, nucléaire, hydroélectrique, éolienne, un département exportateur d'électricité. Il est le premier producteur, comme ça a été dit tout à l'heure, électrique des départements de la région, Rhône-Alpes à l'époque, Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, et produit, l'Ardèche produit 4% de l'électricité française, ce qui, pour le 1% environ du territoire qu'il constitue, est une contribution déjà considérable. Il en découle immédiatement l'invalidation de l'argument par lequel certains développent, défendent le projet sur le cerf de Gruas ou ailleurs, à savoir que l'Ardèche devrait, par solidarité, se sacrifier pour que l'électricité soit de plus en plus développée en France, que la production d'électricité soit de plus en plus développée en France. Ça, c'est le premier point sur lequel je voudrais insister. Il n'y a pas en France, en Ardèche, pardon, et plus précisément sur le cerf de Gruas, il n'y a aucun intérêt à augmenter la production électrique. Mais la deuxième chose que je veux dire pour conclure ma conclusion, c'est au fond, qu'est-ce qui intéresse tant ces promoteurs ? La transition écologique ? Pas sûr du tout. Mais par contre, comme on dit, il faut se mettre à leur place. Imaginez que vous lanciez une entreprise de production de n'importe quoi et que l'État vous dise, quoi que vous produisiez en quantité, quelle que soit la quantité que vous produirez par exemple en électricité. Deuxièmement, sans aucune considération des besoins, puisque l'électricité éolienne vient quand il y a du vent, pas quand on en a besoin. Nous achèterons, l'État dira, dit à ces gens-là, nous achèterons ce que vous produirez à un prix fixe. Et pendant 15 ans, et sans tenir compte du tout des fluctuations du marché de l'électricité. Mettez-vous à leur place. Ils se disent, entre autres, le cerf de Gruas est une poule aux œufs d'or. Une zone à dividendes, c'est l'autre interprétation de ZAD. Hein. Vous avez la zone à défendre, et puis ceux qui pensent qu'il y a des zones à dividendes. Ou comme disent certains, avec une très belle expression, c'est les grands travaux inutiles et imposés. Nous pensons, nous, que c'est une erreur, que c'est sans doute une faute. Et ils vont, tous ces promoteurs, là où c'est facile pour eux, là où ça rapporte le plus, où l'opportunisme de l'effet d'aubaine les conduit. Et nous, à mon avis, nous devons dire nous, à ces promoteurs, pas ça, pas là, c'est-à-dire pas d'éolienne industrielle sur le cerf de Gruas, et leur répondre ce que l'on disait aux représentants de commerce il y a des années, ou aujourd'hui aux démarcheurs téléphoniques, non merci, nous avons tout ce qu'il faut. Et en effet, l'Ardèche est un département qui produit suffisamment d'électricité. En d'autres termes, pour conclure, je crois qu'on pourrait transformer le slogan de l'éolien qui se targue sur les documents qui sont à votre disposition à l'entrée de produire de l'électricité pour 26 000 personnes de la région. Ces 26 000 personnes ont déjà de l'électricité. Donc je propose de transformer le slogan de l'éolien, de le reformuler de la façon suivante. Si vous n'avez besoin de rien, vous pouvez compter sur nous. Thank you.